point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Henri Moisé.
Bonjour.
Alors, cette émission est consacrée au retour des camps nazis. La libération des camps s'est faite entre fin 1944 et mai 1945. Dans quel contexte se déroule ce retour des déportés ?
Bien, le contexte général est bien celui de la fin de la guerre. Mais cette guerre ne se terminera que le 8 mai 1945. Pourtant, depuis août 1944, la France est libérée. Mais les combats continuent. Il faut libérer l'Alsace et la Lorraine. Il faut réduire les poches de l'Atlantique qui ne le seront que tardivement. En cet hiver 44, l'offensive allemande est stoppée dans les Ardennes, tandis qu'à l'est, l'armée soviétique déploie ce qu'il est convenu d'appeler le rouleau compresseur. Et dès le mois de janvier, dès la mi-janvier, les troupes soviétiques envahissent et libèrent progressivement la Pologne et la Hongrie. Et c'est là que se situent des événements majeurs, notamment la libération, et l'évacuation d'abord et la libération ensuite, du camp d'Auschwitz. En même temps, sur le front de l'Ouest, les Anglo-Américains et la première armée franchissent le Rhin. Et c'est le début de l'étau qui va écraser le Reich dans ses derniers mois de guerre. Alors pour le Reich écrasé sous les bombes, il y a une situation nouvelle qui est le chaos. Ce chaos ne frappe pas simplement la population allemande, elle frappe aussi les millions d'étrangers, de prisonniers, de déportés, de requis des 22 nationalités qui, au cours de la guerre, ont été contraints, enfermés en Allemagne. Alors, pour les Français, ils sont 2 150 000 environ. Parmi eux, bien sûr, les prisonniers de guerre, les STO, et aussi tous les déportés politiques et raciaux qui, pendant plusieurs années, ont été amenés dans le Reich. Ce Reich qui est sous les bombes, impassablement détruit, bouleversé, où les transports sont devenus extrêmement dangereux, où les convois militaires se croisent, mais où déjà des milliers et des milliers de gens fuient, les uns les villes, les autres les usines. On est véritablement dans une situation apocalyptique. D'autant que les premiers prisonniers parviennent à se libérer, parfois seuls, en fuyant, parfois en se révoltant. On oublie cet aspect des choses. Mais comme l'Allemagne est sous les bombes et encerclée, cela fait beaucoup de victimes. Victimes encore dans les camps, car les SS continuent leur travail de destruction. Des bateaux sont coulés qui tentaient de fuir. Certains camps de la mort sont vidés de leurs déportés. Et ces marches de la mort, cette errance dans un hiver parfois terrible, continue de provoquer des dizaines et des centaines de milliers de morts. Ce sont des trains qui sont abandonnés et où l'on continue de mourir. Mais voilà que progressivement, la liberté se dessine, qu'il s'agisse des troupes soviétiques ou des troupes américaines, anglo-américaines à l'ouest, il y a découverte de cette réalité concentrationnaire. Il y a ceux qui en bénéficient tout de suite et il y en a beaucoup qui, trop exténués, trop affaiblis, attendent des jours meilleurs.
Alors d'ailleurs, une déportée a dit « Non, rien ne fut facile en ce retour. »
Oui, mais voilà, je vous remercie de citer cette phrase d'une déportée parce qu'elle résume bien que la liberté qui intervient ne règle pas tous les problèmes. D'abord, le premier problème qui se pose pour les troupes alliées est d'assurer la survie. Alors qu'il s'agisse par camion, qu'il s'agisse de train, qu'il s'agisse parfois d'avion, il faut d'abord amener ces déportés, ces prisonniers, vers des hôpitaux. Pour les plus valides, vers des camps qui ressemblent étrangement à celui qui vient d'être quitté. Mais tous insistent sur la joie qui est la leur, sur ce mélange indescriptible de cris, de satisfaction, mais aussi de silence et d'inquiétude. Car les prisonniers de guerre libérés des camps, des stalags ou des oflaves, les STO, libérés de leurs usines ou de leurs camps, non pas d'internement, mais de logement, qu'il s'agisse des déportés, on les regroupe, tant bien que mal. Pour certains, c'est rapidement le retour en train, dans des conditions qui sont parfois évidemment assez hétéroclites et parfois mal organisées. Mais il y a toujours l'inconfort, il y a toujours les contraintes, et on a le témoignage de cette rapatriée dont vous citiez une phrase qui dit ceci: « Nous sommes libres de voyager, porte ouverte, et c'est surtout le chemin du retour. Nous sommes heureux, assis par terre. » Alors ça peut paraître très simple, mais après tout, peu importe les conditions, dans la mesure où il y a la liberté. Et il faut savoir aussi que certains avaient déjà anticipé, et dès que la liberté s'était manifestés, bien avaient choisi de revenir par leurs propres moyens. On est bien dans une confusion extrême qui continuera encore de longues semaines, voire de longs mois. Mais pour tous, au-delà de la joie de la liberté, on sent, s'exprime, l'inquiétude, les interrogations. Qu'allons-nous trouver en France, disent certains, qui n'ont plus de contact depuis de longues semaines, voire des mois? Quelle mort va-t-on nous annoncer dans la famille? Quelle destruction va-t-on rencontrer? Que sont devenus nos proches? Autant d'interrogations, autant de réalités qu'il va falloir affronter.
Les prisonniers reviennent chaque jour par milliers. Pour eux, le cauchemar est fini. Aujourd'hui, des visages de femmes remplacent l'horizon des barbelés. Les déportés reviennent, eux aussi. Ces Français, parce qu'ils ont été les premiers résistants, parce qu'ils ont dit non à l'occupant, parce qu'ils ont maintenu la France, ont été jetés dans des camps qui étaient des bagnes, dans des bagnes qui étaient déjà des cimetières. Revêtus encore de leur livrée de forçats, ils retrouvent la vie dans une France libre pour laquelle ils ont sacrifié leur propre liberté. Paris accueille de son mieux ses survivants, prisonniers et déportés. Quelques formalités indispensables, et ils vont retrouver cette vie qu'ils ont quittée depuis des mois ou des années. Indélébile dont l'ennemi voulait faire une marque infamante sera pour eux la plus glorieuse des décorations. Des femmes aussi ont souffert ce martyr. 300 survivantes du camp de Ravensbrück sont rentrées. Rien ne peut racheter ni compenser les souffrances de ces hommes et de ces femmes. Mais nous avons un devoir envers eux et envers ceux qui ne reviendront jamais, ne rien oublier.
C'était les actualités du 27 avril 1945, consacrées donc au retour à Paris des prisonniers et déportés. Qu'en est-il des premiers convois?
Oui, une remarque d'abord sur cette actualité telle qu'elle est racontée, je dirais, ou démontrée à la radio. On voit la place que détiennent les déportés politiques, on oublie, et les prisonniers de guerre. Et on oublie curieusement, les juifs, les déportés raciaux. Il ne faut pas s'en offusquer, c'est lié à la mauvaise connaissance que l'on avait des camps et du système concentrationnaire nazi. Progressivement, les choses se rétabliront. Dans l'immédiat, on est surtout content en France devant ces retours. Mais cette joie du retour est vite tempérée par ce que l'on découvre et que démontre assez rapidement d'ailleurs, mais parfaitement, cette bande d'actualité. Le premier convoi de retour d'ailleurs est arrivé à Marseille. C'est un bateau anglais qui ramenait à peu près 1660 personnes, majorité de Français avec quelques Belges et Luxembourgeois, surtout des prisonniers de guerre et quelques dizaines de déportés, 63 déportés. Et c'est la première fois que l'on découvre bien cette réalité. Et dans les semaines qui ont suivi, le premier convoi de déportés est un convoi de femmes, ce qui est rappelé dans cette bande d'actualité, qui le 14 avril arrive de Ravensbrück. Le général de Gaulle, le chef du gouvernement provisoire, va lui-même en gare d'Orsay accueillir ces femmes. Et les témoins qui l'accompagnaient et qui ont raconté la scène ont décrit le général de Gaulle figé et pâle. C'est vrai qu'il a été surpris par la situation même physique de ces femmes débarquant en gare d'Orsay. On découvre en effet ce que l'on appelait dans les camps les musulmans, terme évidemment qui peut choquer aujourd'hui dans notre contexte, mais qui illustre bien le caractère familique d'épuisement, et c'était le surnom qui était issu des camps. Alors c'est vrai que quand le train est annoncé, on accueille, il y a toujours un caractère officiel dans l'accueil, du moins pour les premiers convois. On joue la Marseillaise, on se précipite, on s'active. Et puis progressivement, au fil des semaines, l'accueil sera beaucoup moins chaleureux, disons. Mais il faut comprendre aussi que l'ampleur du travail est considérable. On ne s'attendait surtout pas à autant de personnes à secourir, à aider et à intégrer dans notre pays.
Alors comment s'est organisée la solidarité ?
Oui, voilà une vraie question, car lorsque, en septembre 1944, on imaginait déjà la fin de la guerre proche, on évoquait le retour des absents. Et on l'évoquait en termes, je dirais, assez inexacts. On n'imaginait pas cette réalité. On imaginait le retour, l'accueil chaleureux, et ces prisonniers, ces déportés repartant chez eux, comme au retour d'un long voyage, d'une longue absence. La réalité, évidemment, va dépasser ces bénévoles qui, au début, sont en gare d'Orsay, notamment, et qui vont être confrontés à ce qui n'était pas du tout prévu. À tel point que ce sont des femmes, notamment Agnès Bidault, la sœur de l'homme politique et grand résistant, qui va obtenir la réquisition de l'hôtel Lutetia, qui va tenter, ce groupe de femmes va tenter de dynamiser cette forme d'accueil, obtenir tant bien que mal des médicaments, obtenir des provisions, souvent d'ailleurs en puisant dans les magasins séquestres où avaient été mises les productions du marché noir. Et cet hôtel Lutetia devient le lieu où passent des milliers et des milliers de gens. Alors il faut savoir quand même que certains jours du mois d'avril, mai, ce sont 20 000 personnes qui arrivent en gare de Paris. C'est autrement dit, une tâche extrêmement difficile à mener à bien, d'autant qu'il faut à la fois accueillir les déportés ou les prisonniers, les recenser, comprendre quel est leur état, les confier à des médecins, alors qu'en même temps, il y a des curieux, il y a des bénévoles qui interviennent, il y a des services de police qui interviennent, et surtout des gens d'autres personnes qui recherchent, qui cherchent à savoir plutôt si leur proche est rentré. Et donc il y a cette, je dirais, cet imbroglio multiple, divers, qui ne permettent pas évidemment parfois des solutions rapides. Cette improvisation, effectivement, et vous le comprenez, se double de la confusion. C'est parfois un dialogue de sourds, c'est déporté, c'est rapatrié, quelles que soient leurs conditions personnelles. S'étonne qu'on les questionne, qu'on cherche à savoir, qu'on cherche à comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils sont là. Alors qu'ils sont exténués, souvent malades, en tout cas en difficulté. Et on leur demande par question d'où ils viennent, ce qu'ils font, etc. Plusieurs préoccupations. D'abord, il y a la préoccupation sanitaire qu'il faut comprendre. Face à l'ampleur des retours, on craint le typhus, on craint la prolifération des poux, on craint la contagion de la tuberculose. On craint aussi que derrière les vrais déportés, prisonniers ou STO, il y ait des gens, des collaborateurs, qui auraient fui la France et qui, profitant des circonstances, chercherait à se refaire une virginité politique. Et d'où, évidemment, ces questionnements, ces interrogations qui ont un caractère extrêmement sérieux, policier, et qui, évidemment, agacent les déportés ou les rapatriés. Et puis, il y a aussi, parmi eux, souvent des étrangers. Il y a même des enfants dont on ne sait s'ils sont orphelins, mais qui sont incapables de répondre aux différentes questions. Et d'où parfois des conflits, des cris, des exaspérations qui ajoutent encore, je dirais, à la souffrance du moment, et des bénévoles dépassés qui n'arrivent pas toujours à répondre eux-mêmes aux demandes des familles qui présentent des photos, mais des photos déjà très anciennes et qui enfin n'ont plus de rapport avec la personnalité et le physique des gens qui rentrent.
Le Chant des Marais, interprété par le groupe 17. Le Chant des Marais, qui était le chant des premiers déportés allemands, il a été écrit en 1933.
Et qui traduit bien la déshumanisation du système concentrationnaire nazi.
Alors comment va se transmettre la mémoire des déportés ?
Alors, pour les déportés politiques ou raciaux, va subsister longtemps une difficulté à communiquer, à témoigner. Cette réalité de la déportation, avec les coups, avec la mort, avec les privations, avec le travail qui tue, avec la barbarie, tout cela est difficile à transmettre. Il y avait chez beaucoup de déportés politiques ou raciaux cette idée que s'ils parlaient, on ne les croirait pas. Et c'est vrai qu'il était impensable pour beaucoup de Français d'écouter ces témoins raconter l'innommable. Et pour eux, qui plus est, il y avait cette difficulté à comprendre cette France dans laquelle ils revenaient qui avait beaucoup changé. Comment allait-on pouvoir expliquer ce qu'était la chambre à gaz, ce qu'étaient les fours crématoires, ce qu'était évidemment la privation qui tue. Et d'ailleurs, le système concentrationnaire nazi, avec son étendue, avec sa brutalité, sa barbarie, dépassait l'intelligence même, ce que l'on pouvait imaginer. Et d'ailleurs, certains ont qualifié le camp nazi d'Anus Mundi, qui résume bien par cette métaphore, évidemment, la cruauté et la barbarie. Pour beaucoup de ces déportés politiques et raciaux, la réalité qu'ils retrouvent est encore terrible. Citons par exemple Jeanne Gantou, Madame Boer de Sainte-Afrique, dont le frère a été fusillé en août 1944, et elle découvre là encore qu'à la mort de son mari s'ajoute celle du frère. C'est encore Geste, un Alsacien qui a fait la résistance en Aveyron, qui a été déporté de l'Aveyron et qui, revenant en Alsace chez lui, trouve tous ses biens, sa maison détruite, saccagée. Et ce sont aussi, pour quelques survivants, la découverte d'une famille déportée aussi et qui a disparu, elle, dans les camps. Ils se retrouvent seuls survivants et les exemples sont nombreux. Alors comment témoigner dans cette France de cette réalité ? Bien sûr, on parle de l'impossible oubli, mais en même temps, c'est revenant, comme on les surnomme parfois, ces miraculés, vont avoir un sentiment de culpabilisation, parce qu'eux sont vivants et tous les autres sont morts. Il y a là des psychologies que l'on a du mal parfois à comprendre, nous, qui n'avons pas vécu évidemment ces drames-là, mais qu'il faut admettre. Et pourtant, ils vont devoir vivre avec ce cauchemar, avec cette réalité, accepter le regard des autres, et en évacuant, autant que faire se peut, tout ce qui a été vécu au camp pour se replonger, mais avec les pires difficultés, dans une nouvelle vie qui s'avérera beaucoup plus difficile qu'on ne l'imaginait.
Alors, qu'en est-il pour les prisonniers de guerre ?
Alors là, le problème de la mémoire est totalement différent. D'abord parce que les prisonniers de guerre, eux, sont parfois suspectés d'avoir passé 5 ans, je dis bien de manière injuste, mais enfin on les suspecte, après tout, d'avoir été des spectateurs de la guerre. Ils ont quitté la France en 1940, prisonniers, une France vaincue, Et ils reviennent en 1945 dans une France victorieuse, mais une France qui est victorieuse sans eux. Et donc, le retour est parfois l'objet de critiques, en tout cas d'interrogations. On s'interroge sur ce qu'ils ont fait en Allemagne, sur le travail qu'ils ont parfois accepté, mais pouvaient-ils faire autrement ? On les soupçonne parfois, après tout, d'avoir trouvé du travail dans des fermes, ce qui les, évidemment, les dispensait d'être exposés dans des camps ou dans des usines. Le malentendu n'est pas que là. Il est aussi dans le fait, mais on ne peut pas leur en faire procès, que Vichy, l'État de Vichy, l'État de Pétain, l'État français, les avait utilisés, les avait instrumentalisés. Mais ça, ils n'en sont absolument pas responsables. Et donc, on leur reproche un peu cet ensemble de choses, si bien que si Vichy les avait héroïsés, en avait fait des héros, des sortes de symboles de la France souffrante, la France libérée en fait plutôt des gens suspects. Et d'où parfois leur retour difficile. Un retour difficile parce qu'après 5 ans, ils découvrent une France qui a été profondément bouleversée. Une France qui ne les comprend pas toujours. Une France qui a donné le droit de vote aux femmes. Une France, évidemment, qu'il faut reconstruire. Et où, parfois, on découvre des injustices. D'où les prisonniers de guerre, à la différence des déportés politiques, seront victimes d'une sorte d'ostracisme mémoriel. Il leur faudra du temps pour faire valoir leurs droits, car il faudra bien leur reconnaître aussi des souffrances et des sacrifices. Et donc on voit une masse de prisonniers, historiquement, ils sont plus de 1,5 million, qui gardera d'abord le silence, mais qui progressivement retrouvera dans la nation un droit de parole et constituera un lobby, et ce n'est pas le moindre mérite de ce groupe, c'est d'avoir ensuite su, évidemment, travailler à la construction à la fois d'une Europe, mais surtout d'une Europe de la paix. Je crois que beaucoup d'anciens prisonniers se sont retrouvés dans ce schéma-là, hein, de témoigner pour la paix et pour que l'Europe soit enfin pacifiée.
Comment les déportés vont se réadapter ?
Déportés, prisonniers de guerre, on a plus. Je crois que même si les différences sont fortes, la problématique de la réinsertion dans le pays est assez semblable. Alors, il y a d'abord la volonté officielle de réinsérer déportés, prisonniers et STO dans le tissu social et politique français. Il y a cette volonté-là. On considère que la France est exsangue, certes, mais qu'elle a besoin de tous ses enfants pour se reconstruire et pour connaître, évidemment, un avenir radieux. Alors, il y a une brochure intitulée « Rapatrier, voici ta France » en 1945 qui, justement, les accueille ou prétend les accueillir et leur montrer le nouveau chemin sur lequel ils doivent s'engager.
Alors voici le contenu de cette brochure. Rapatrié, voici ta France. Tu peux vérifier que voici bien ta France. Ce n'est plus le pays que tu as quitté, mais elle reste la France comme tu étais resté un Français, là-bas, derrière les barbelés et parmi la chiourme. Voici ton pays qui se refait et te voici en lui, chez toi, pour le refaire, comme lui capable de miracles. Plus rien n'y est facile, mais l'essentiel est sauvé comme pour toi. La vie, la liberté et les trésors innombrables qui sont en toi, dans ta terre et sous ton ciel. C'est devant qu'il faut regarder, c'est la paix qu'il faut bâtir ici et par le monde. L'œuvre de paix est face à toi. C'est un combat, le seul vrai, le seul digne de l'homme, le grand effort commun qui apporte la joie.
Oui, bon, je crois que ça résume bien cette volonté d'union nationale hein, et d'appel à toutes les énergies. Et évidemment, dans cet appel, les rapatriés, déportés, prisonniers de guerre, jeunes du STO ou autres pouvaient évidemment retrouver leur place. Il est vrai que c'est la volonté du gouvernement provisoire hein, de la République, ne sont véritablement exclus en 44-45 dans cet effort national, dans cette réconciliation, que les collaborateurs et tous ceux qui se sont compromis avec l'occupant. Tous les autres, au-delà de leur diversité philosophique, politique, religieuse, que sais-je, sont appelés hein, à cet effort d'union nationale. C'est pas facile, car désormais, dans cette France à reconstruire, dans cette France qui retrouve les joies de la vie politique hein, et de la démocratie, c'est vrai, où les femmes votent pour la première fois lors des municipales de 1945, les enjeux de mémoire deviennent très forts. Ce sont même parfois des mémoires concurrentes, sinon hostiles. Alors on dit les déportés, mais les déportés politiques sont mieux considérés par notre pays que les déportés raciaux. On considère qu'un déporté politique a fait un choix, a combattu, a œuvré contre l'occupant, alors que les déportés raciaux, même si on comprend leur souffrance, ne sont victimes que de leur classification juive, tzigane ou autre. C'est injuste, ça peut nous choquer, et pourtant c'est ce qui s'est produit. D'où, parfois, les déportés politiques ont été les plus rapides à exprimer ce qui avait été leur combat et leur souffrance, alors que les juifs se sont laissés peut-être attirer par le silence ou la Palestine, où se créait un nouvel État pour eux. Il est vrai que parmi beaucoup de juifs déportés de France, il y avait une majorité d'étrangers dont notre mémoire les a moins vite intégrés. Pour les prisonniers de guerre, on l'a évoqué tout à l'heure, la difficulté est de subir la concurrence des nouveaux héros militaires que sont les maquisards. Imaginons les prisonniers vaincus, puisqu'ils ont été faits prisonniers, par rapport aux jeunes maquisards qui, eux, ont libéré, dit-on, la France. Donc, évidemment, leur mémoire ne pèse pas lourd face, je dirais, à la gloriole que pouvaient représenter les combats du maquis. Parfois exagérés, mais enfin, c'est aussi une comparaison qu'il fallait faire. Et puis, il y a le STO. Pour eux aussi, il y a cette difficulté à revenir dans un pays, car c'est ambigu le STO. Certes, les jeunes sont partis contraints, requis. Cette fut une obligation. Ceux qui n'ont pas pu se cacher ont été obligés de partir. Mais il y a toujours une suspicion. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement ? Et donc, les STO auront pour objectif de se faire reconnaître ce que parfois, dans des discours, on fait déjà, comme déporté du travail, ce qui était évidemment déjà une reconnaissance. Mais il y a des blocages qui perdurent. Au-delà de ces enjeux de mémoire, de ces définitions à redonner à telle ou telle situation, il y a le blocage, parfois les séquelles que certains vont garder dans leur chair et dans leur esprit, ces séquelles psychiques et physiologiques qui imposent parfois l'isolement de beaucoup, le silence de certains, et que l'on résume par les terribles tourments des souvenirs, des gens qui vont se retrouver définitivement meurtris. Il y a aussi les interrogations qui apparaissent chez certains. Si j'ai été déporté, est-ce que je n'ai pas été trahi ? Est-ce que je n'ai pas été dénoncé ? Et d'où, parfois, on craint la vengeance. En fait, très peu de déportés chercheront à savoir véritablement s'ils ont été trahis. Et quand ils se savaient avoir été trahis chercheront à connaître les auteurs. Et puis il y a aussi une autre difficulté pour notre pays, c'est le drame des malgré nous. Je ne les ai pas évoqués dans les retours parce que c'est un sujet un petit peu plus complexe. Beaucoup de malgré nous...
On peut rappeler qui étaient les malgré nous ?
On appelle malgré nous les Alsaciens lorrains, notamment de la Moselle, hein, qui furent contraints, membres de territoires annexés au Reich, donc considérés comme terres allemandes, furent obligés de porter l'uniforme de la Wehrmacht. Il ne s'agit pas de collaborateurs, de choix personnels, mais bien d'une contrainte. Reste qu'ils ont fait une partie de la guerre dans l'armée allemande. Et pour certains, évidemment, la reconnaissance de ce titre de malgré nous les exonérait d'être accusés de collaboration. Reste que certains ont été faits prisonniers par les soviétiques et traités donc comme soldats allemands, soldats ennemis. Et d'où des souffrances encore plus terribles. Et pour la France, c'est malgré nous, outre la définition que l'on pouvait en donner, contraint, ce qui ne voulait plus dire volontaire, poser aussi le problème de l'implication de certains d'entre eux dans des lieux de crimes de guerre, par exemple au Radour. Donc vous voyez que le retour à la paix et le retour de tous les exilés et rapatriés divers et variés n'est pas réglé pour autant. On ne règle pas tous les problèmes en suspens. Et je vous rappelle quand même que certains, malgré nous, accusés de crimes de guerre, dans le cadre de l'armée allemande, seront jugés à Bordeaux jusqu'en 1952, suite de l'affaire d'Oradour-sur-Ulane. Et puis il y a aussi encore ces images brouillées qui vont perdurer longtemps, notamment pour ces prisonniers de guerre qui, revenant chez eux, vont découvrir parfois des situations douloureuses de changement de famille quand ils ne seront pas contraints par une... Même si c'est relativement rare, vu la masse des prisonniers de guerre, contraints à un divorce par une femme qui refait sa vie. Et puis il y a enfin le sordide. Je le garde pour la fin parce qu'on n'en parle jamais. Il s'agit de ces juifs français, ou de ces français juifs, qui revenant dans les villes où ils avaient été raflés, vont découvrir que leurs biens, dans le cadre de ce que l'on appelait sous Vichy l'arianisation, a été accaparé par d'autres. Et il leur faudra du courage et de la ténacité pour que les nouveaux propriétaires Zendelica rendent ces biens à leurs vrais propriétaires. Remarquez que certains tableaux n'ont jamais été totalement récupérés. Et puis surtout, dernier point, alors que tant de souffrances cumulées, tant de séquelles, de stigmates vont perdurer, il y aura parfois pour beaucoup la douleur de constater que certains trafiquants du marché noir, certains collaborateurs continueront à avoir pignon sur rue. L'épuration ne sera pas aussi violente qu'on l'a dit.
On va donner peut-être quelques conseils de lecture.
Oui, pour prolonger évidemment une émission qui ne fait que survoler et des périodes difficiles et des situations personnelles douloureuses. On peut vous recommander d'abord le livre d'Annette Wiewiórka, une historienne, « Déportation et génocide », mais c'est le sous-titre qui est important, « Entre la mémoire et l'oubli ». Donc ce n'est pas un livre sur la déportation et le génocide en soi, mais sur la façon dont ces aspects-là ont été préservées dans notre mémoire collective et transmises.
Elle aborde d'ailleurs le retour des déportés et puis ce qui s'en est suivi.
Ça en fait partie.
Voilà.
Et la façon dont cette mémoire va se trouver progressivement utilisée, transmise, voire parfois instrumentalisée.
Oui, tout à fait. Ouais.
Plus je dirais, moins de réflexion, mais beaucoup plus de témoignages concrets, le livre intitulé « Le retour des déportés, quand les Alliés ouvrirent les portes » d'une spécialiste de la déportation, Olga Wormser-Mijko, pardon, aux éditions Complex. C'est un livre que l'on appelle « livre de poche », mais très bien fait et très riche. Troisième proposition, un livre de Primo Levi. On connaît surtout le livre « Et si c'est un homme ?» Eh bien, moi, je recommande plutôt « La trêve ». Ce livre, « La trêve » est l'errance, dont celle de Primo Levi, juif italien, qui, libéré, va parcourir l'Europe pendant plusieurs mois, connaître, je dirais, même les marges de l'Union soviétique avant de se retrouver en Autriche et puis en Italie. Et la trêve est peu déroutée, et il y a des passages qui peuvent même faire sourire, voire rire. Il y a un côté, disent les observateurs, picaresque dans une tragédie où évidemment Primo Levi, avec son regard acéré d'humaniste désabusé, et nous fait prendre conscience de cette réalité.
Alors d'ailleurs, à ce propos de Primo Levi, j'ajoute, donc là, La Trêve, hein, c'est autobiographique, mais il a écrit un roman, Maintenant ou Jamais, qui reprend exactement ce thème. Voilà, c'est un groupe de déportés libérés et qui va traverser l'Europe et rejoindre pour le coup la Palestine. Ce que ne fait pas Primo Levi.
Non.
Qui revient en Italie, Primo Levi.
Oui. Mais dont les souffrances psychiques et autres, et l'amertume devant l'humanité, parfois, et certains comportements le conduiront au suicide.
En 87.
Et dernier livre, typiquement sur un éclairage français, « Les premiers beaux jours », c'est la France libérée, la France qui se remet à vivre, à redécouvrir les joies de la vie, de la démocratie, après tout. C'est un ouvrage de Fred Kupferman, un professeur en Sorbonne, mais qui aujourd'hui est disparu. Ce livre a l'avantage, évidemment, de rappeler justement le retour de ce dont nous avons évoqué le souvenir, les difficultés qui furent les leurs, mais en même temps, comment cette France va connaître le début de ce que l'on a appelé plus tard les 30 glorieuses. Ça commence à ce moment-là.
Merci beaucoup Henri Moisé. À la prochaine fois.
Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire.